BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Cette semaine, on va s'intéresser à un champion français du mobilier en métal. C'est Fermob avec ses notamment célèbres chaises bistrot et Luxembourg, des produits made in Rhône-Alpes qui se vendent d'ailleurs dans le monde entier. On parlera aussi diversification et éco-conception de ces produits avec le directeur général de Fermob, Baptiste Rébier. C'est aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la Loire, qu'est située l'entreprise Un Coq dans le Transat, un très joli nom pour un site qui propose des produits pour la maison et le jardin, produits tous fabriqués en France, bien sûr. On parlera de la stratégie du Coq dans le Transat, qui a notamment racheté un de ses concurrents au comptoir des industries. Mon deuxième invité est Pierre Joubert, le cofondateur du Coq dans le Transat. Enfin, nous parlerons des bustes de couture Stockmann, ces mannequins très prisés depuis plus de 150 ans par le monde de la haute couture, mais pas seulement. Stockmann est labellisé entreprise du patrimoine vivant depuis 2012. Notre troisième invité est Christophe Israël, c'est le PDG de Stockmann. Mais tout d'abord, donc, bonjour Baptiste Rébier.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Fermob, une société qui a été créée après une reprise par votre père Bernard, c'était en 1989. Depuis bientôt 2 ans, vous êtes au poste de directeur général, après de nombreuses années passées dans l'entreprise à différents niveaux. Rappelez-nous le cœur d'activité de Fermob, je le disais dans les titres, on vous connaît notamment pour ces fameuses chaises Luxembourg et bistrot.
Oui, alors on est historiquement concepteur et fabricant de mobilier de jardin, mobilier d'extérieur, en métal principalement, et puis avec beaucoup de couleurs, avec une offre de couleurs assez large. Et puis ces dernières années, on a élargi l'offre, je dirais, sur la décoration du jardin au sens large, avec aussi des éléments de décoration, également des parasols. Et puis, on a développé aussi une offre de luminaires pour l'extérieur. Et puis, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on commence aussi à développer des gammes plus dédiées à l'intérieur, en gardant l'identité métal, mais en faisant des produits plus pour le salon et la salle à manger.
On parlera beaucoup de votre diversification, mais donc votre produit phare, c'est vraiment cette chaise bistrot. Je crois que c'est 200 000 pièces produites chaque année, c'est 20% de votre chiffre d'affaires.
Oui, c'est un modèle assez extraordinaire parce qu'il a cette dimension iconique. Il a un design techniquement qui a un petit peu évolué au fil des années. Il y a eu des améliorations techniques, mais son dessin reste celui de cette chaise parisienne,
voilà, l'antenne,
typique
voilà.
De la fin du 19e. Et elle avait à l'époque des caractéristiques qui la rendent toujours très intéressante aujourd'hui. C'était une chaise légère, déplaçable, modulable. À l'époque, d'ailleurs, les limonadiers de la bord de Seine avaient besoin d'une chaise qu'ils puissent ranger le soir pour ne pas payer la taxe, la patente. Et donc, c'est un produit qui est devenu iconique. Et aujourd'hui, ce type de produit, c'est des gammes que les gens aiment, c'est-à-dire des produits à la fois modernes, durables, confortables, et en même temps qui sont chargés d'histoire et qui vont un petit peu plus loin que simplement leur fonction.
C'est tout ce qu'on aime dans cette émission. Je reviens sur l'historique de Fermob. Je l'ai dit, donc, le rachat d'un atelier de ferronnerie par votre père en 1989, à l'origine 10 salariés. 35 ans plus tard, on peut dire, on va parler des différents rachats. C'est une véritable ETI familiale qui s'est mise en place et vous êtes plus de 500.
Oui, voilà, il y a eu un développement qui n'est pas récent, qui a été constant depuis la reprise par mon père il y a 35 ans, avec un doublement en général de chiffre d'affaires tous les 4 à 5 ans. Et donc, on est aujourd'hui effectivement un peu plus de 500 salariés, un chiffre d'affaires consolidé autour des 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, un très bon développement en interne et puis aussi, je dirais, en externe avec un réseau localement de sous-traitants, oui. Avec lesquels on travaille beaucoup. Donc, c'est important, on oublie parfois la dimension territoriale des entreprises et de leurs partenaires est très importante et elle s'est développée aussi tout au long de ces années.
Ici, c'est une dimension que l'on n'oublie pas. Votre usine, elle est située à Toissé, dans l'Ain. Vous parliez de croissance externe. Donc, il y a eu le rachat de Vlaminck, c'était en 2013. Ils vous fournissent notamment les parasols et les matelas de plage dont vous avez parlé. Le site est à Mâcon, en Saône-et-Loire. Et puis, il y a eu aussi le rachat de Rodet. Là, on est plus sur de mobilier extérieur pour les collectivités. C'était en 2016 et le site est dans la Drôme, à Anneyron.
Voilà. Alors il y a eu ces acquisitions qui ont toujours été effectuées en général au service de la croissance de Fermob et pour augmenter nos capacités de production. On voulait se diversifier. La société Vlaminck était fabricant de parasols, de tissus pour matelas, coussins d'extérieur, etc. Donc c'était très intéressant. Et puis la société Rodet, comme vous le dites, a une activité propre de mobilier pour les collectivités, mais avait aussi des capacités de production qu'on pouvait utiliser pour Fermob, notamment une chaîne de peinture très perfectionnée, et donc c'était important pour nous. Donc on a pu faire ces extensions pour construire une dimension de groupe, tout en restant assez local, puisque ces deux sociétés sont situées respectivement à une demi-heure et à une heure de notre site principal.
Et ça compte, aussi dans votre stratégie d'éco-conception et d'éco-production. Il y a le local, mais il y a aussi toute une stratégie que vous portez depuis votre nomination à la direction générale. C'est très important, donc à la fois en termes de recyclage, en termes d'utilisation de l'eau. Ce sont vraiment des valeurs que vous souhaitez mettre en avant dans votre entreprise.
Oui. Et ça ne fait pas 2 ans que je les mets en avant. Ça fait depuis 30 ans, puisqu'il y a une trentaine d'années, quelques années après que mon père ait repris l'entreprise, il a souhaité définir les valeurs de l'entreprise. Une d'entre elles était le respect de l'environnement. C'est évident aujourd'hui. Il y a 30 ans,
c'était Ça l'était moins.
Donc l'éco-conception, on en fait depuis le début. Quand on est industriel, quand on est attentif aux chutes des matières, à sa réutilisation, etc. L'éco-conception a été, je dirais, naturellement intégrée chez nous depuis toutes ces années.
Et ça passe par quoi ? Je parlais de l'eau. Je crois que vous utilisez presque 3 fois moins d'eau qu'il y a quelques années. Il y a aussi le recyclage de la chaleur qui est produite dans vos ateliers, qui sert va chauffer, c'est la fameuse chaleur fatale. Ça, c'est toutes ces petites choses qui font votre stratégie d'éco-conception et d'éco-production.
Oui, voilà. Alors là, on est plus sur la partie éco-production. Mais quand vous êtes sur cette démarche-là, les usines sont éclairées en LED, en ampoule LED depuis 15 ans. On l'a pas fait ces dernières années, c'est depuis une quinzaine d'années. Et quand on parle de la conception, on vend des produits de très bonne qualité qui ont un certain prix. On n'est pas sur l'entrée de gamme, on n'est pas sur un produit de luxe non plus, mais on est sur des produits où les gens les achètent en ayant une promesse de qualité. Et donc notre promesse est de pouvoir vendre des produits qui vont être durables, non seulement de par ces matériaux, la manière dont ils pourront être recyclés, etc., mais durables dans le sens où on doit leur promettre que la durée de vie d'utilisation doit se compter non pas en années, mais plutôt en décennies. Et puis qu'au bout de quelques années, si les produits sont abîmés, ont un petit peu les effets du temps, qu'on puisse les réparer, les remettre au goût du jour,
Et ça passe entre autres par votre programme Repaint, pour ne pas jeter les produits qu'on a achetés chez vous, mais les repeindre. C'est la peinture qui peut faire défaut au bout de quelques années.
Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que les produits soient recyclables, c'est très bien, mais qu'on puisse les réparer et les garder, j'estime que c'est encore mieux. Et Repaint, en fait, répond à 2 besoins. Repaint, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans toute la France, vous avez des partenaires, des industriels qui ont des petites chaînes de peinture, chez qui les gens peuvent ramener leurs produits Fermob au bout de quelques années, pour pouvoir les repeindre dans des conditions professionnelles, moyennant un tarif environ de 30 ou 40% du prix du mobilier neuf. Et ça répond à 2 attentes. La première, c'est quand vous avez des gens qui ont des produits vraiment assez abîmés au bout de 15, 20 ans, etc. Mais on s'est rendu compte, et ça nous a surpris, que ça répond aussi à l'attente des gens qui, au bout de 4-5 ans, ont envie de changement, ont envie juste de changer de couleur, de changer de style. Oui. Et plutôt que de reconsommer, réacheter, finalement, ils peuvent garder leur mobilier actuel, mais en lui donnant un style différent. Donc c'est intéressant à ce niveau-là aussi.
On va parler aussi de l'internationalisation. Oui. 50% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'étranger. On va voir quelques exemples. Vous êtes présent à Times Square, à New York, devant l'Opéra de Sydney. Vos actualités pour ces tout derniers jours, c'est la Villa Médicis à Rome, et puis c'est les Champs-Élysées. Donc là, on est bien en France. Voilà. Mais ça va dans votre stratégie aussi de premiumisation de vos produits.
Oui, alors l'international, ça a toujours fait partie de notre stratégie depuis le début, notamment parce qu'on est sur un marché petit. Le marché de l'extérieur, du mobilier d'extérieur, est beaucoup plus petit que le marché de l'intérieur. Et donc, il fallait qu'on aille à la conquête de l'international. On l'a fait de manière assez simple et avec du bon sens, c'est-à-dire d'aller notamment beaucoup en Europe, dans les pays limitrophes, la Belgique, l'Allemagne, etc. Et puis parfois un petit peu plus loin, comme aux États-Unis notamment. Voilà. Et c'est une démarche qu'on a démarrée depuis 30 ans et qui a fait qu'on est arrivé à 50% du chiffre d'affaires à l'export.
Et ça va aller de plus en plus fort, ou est-ce que ça vous semble bien le 50-50 France étranger?
Alors, je dirais sur le long terme, mon rêve, ce serait 50% Europe et 50% hors Europe. Donc, on a envie d'aller encore plus loin. On a notamment pas mal d'ambitions aux États-Unis. On a racheté notre distributeur il y a 2 ans. Donc, on a maintenant 30 salariés aux États-Unis concentrés sur le développement là-bas.
Et ça restera du fabriqué en France?
Fabriqué en France, mais il est possible qu'on fasse de la... Alors, plus pour des raisons techniques, mais on va appeler ça de la différenciation retardée, qu'on fasse de la peinture aux États-Unis, ce qui permet d'avoir une gestion des stocks un petit peu plus souple.
On a encore beaucoup de choses à dire, mais le temps passe et je vais vous connaissez, je pense, votre voisin, en fait, puisqu'il se trouve qu'il propose vos produits sur son site. Vous connaissiez un petit peu, vous aviez échangé. Pierre Joubert, bonjour.
Bonjour Jérôme. Oui, tout à fait. Il y a un partenariat historique avec Fairmob, puisque nous sommes la branche e-commerce d'une industrie qui est spécialisée dans la sous-traitance de pièces en fil métallique. Et on travaille avec Fairmob depuis 1989. Sur la partie distribution maintenant.
Qui nous intéresse, voilà. Qui nous intéresse. Je le précise, vous êtes à la tête et le cofondateur d'un coq dans le transat. Présentez-nous donc voilà ce qu'est un coq dans le transat que vous avez co-créé en 2016 avec Maxence Chabanne.
Tout à fait, on a lancé donc uncoqdanslentransat.fr qui est un site spécialisé dans la distribution de produits exclusivement fabriqués en France, où Fairmob a toute sa place. Nous avons lancé le site pour la simple et bonne raison qu'on souhaitait mettre en valeur les fabricants français, puisque l'usine mère que je viens de vous présenter en vit depuis 3 générations. Et il nous semblait de bon sens de consommer à proximité de chez nous plutôt que des produits fabriqués à l'autre bout du monde.
Et le fabriqué en France est votre seul critère de référencement, ou est-ce qu'il y a d'autres valeurs que vous souhaitez mettre en avant sur un coq dans le transat?
Le fabriqué en France est le critère principal. Si en plus du critère principal qui est la fabrication française, on peut ajouter de l'upcyclé, de l'éco-conception, des petites choses en plus, c'est sympa. Après, on a un univers qui est la maison et le jardin, avec un grand M et un grand J, comme je dis souvent. Cuisine, mobilier, décoration, art de la table. Que ce soit un petit artisan qui fabrique presque dans son garage, ou une ETI qui avec de vrais outils d'industrialisation, tout le monde est le bienvenu chez nous.
Vous êtes preneur. Combien de produits référencés, combien de marques présentes sur un coq dans le transat?
On a commencé avec une trentaine de fabricants et 1000 références. Aujourd'hui, on a à peu près 60 000 références, qui représente 250 partenaires fabricants.
Et votre modèle économique, quand on échangeait juste avant le début de cette émission, vous m'avez dit, ne dites surtout pas qu'on est une marketplace. C'est quoi votre modèle économique?
Oui, nous ne sommes pas une marketplace.
Je vous confirme.
On est en fait un hybride. En 2016, quand on se remet dans le contexte, le dropshipping n'existait pas ou existait très peu. Et on voulait sécuriser un peu le lancement de cette entreprise. Et on s'est dit, tiens, on a la chance d'avoir des fabricants français. Donc, tout va partir des usines de fabrication jusqu'au client final. Et donc, on a commencé comme ça. Et ce qui nous a aussi aidé, puisque ça nous permettait d'avoir un BFR négatif. Donc, on a vraiment sécurisé et on a lancé cette entreprise en gestion en bon père de famille, doucement, un pied devant l'autre.
Et votre pourcentage sur chaque vente, c'était combien? Enfin, c'est combien?
Vous voulez dire notre marge brute?
La rémunération, vous, quand vous faites quand une vente passe par votre site, enfin, parce qu'ensuite j'ai bien compris que ça allait vers le site du producteur, mais vous, quelle est la part que vous prenez?
Notre marge est variable entre un produit non stocké et un produit stocké, puisque maintenant
on va y venir.
Voilà. Et ça, elle varie entre 30 et 50%.
D'accord. Et donc voilà, vous évoluez en partie vers un modèle où vous achetez des produits aux marques, vous les stockez, vous les revendez. Pourquoi ça? Est-ce que ça vous fait une plus grande marge ou est-ce que c'est une pression des producteurs qui vous ont dit, nous on a besoin d'un certain engagement sur les volumes de vente, donc ça passe par votre pré-achat et vous vendez ensuite?
C'était surtout pour gagner en réactivité pour nos clients, puisque nos fabricants français sont focus sur le développement de leur entreprise, sur le développement de leurs produits, et ils n'ont pas toujours une logistique dédiée à l'envoi de colis à la référence plutôt qu'à la palette. Et on souhaitait améliorer l'expérience client, donc on s'est dit qu'à un moment il fallait qu'on aille sur un modèle, qu'on fasse évoluer notre modèle du moins, et qu'on aille sur un modèle où on stocke.
Et vous gagnez plus avec ce modèle-là ou est-ce que c'est équivalent?
On a forcément, en prenant le risque de stocker, on a forcément des marges qui sont plus importantes.
Et qui montent jusqu'à combien?
Jusqu'à ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 50%.
Alors donc ça vous a obligé à... Enfin, c'est un investissement, donc évidemment vous capitalisez sur cet investissement. Nouvel entrepôt de 1000 mètres carrés, donc à Saint-Galmier dans la Loire, un site que vous partagez avec l'entreprise Chabanne, qui est un de vos actionnaires, vous nous en parliez il y a quelques instants. Le bâtiment, il est prêt, il est opérationnel, et ça vous a coûté combien?
Le bâtiment, il est opérationnel depuis le 3 juin, c'est un investissement de l'ordre d'1 million d'euros. Il est arrivé puisqu'on a racheté un de nos concurrents, et on a eu un alignement de planètes.
On a racheté
l'entreprise Comptoir des Industries Françaises. On avait 10% de marques en commun, donc nous étions très complémentaires. Ils avaient un petit entrepôt et on voulait commencer à stocker. Ils avaient une boutique physique et on souhaitait se mettre le pied à l'étrier, aller au cœur des clients avec une boutique physique. Et du coup, l'alignement des planètes a fait qu'on a repris l'entreprise il y a bientôt 2 ans.
Et cet alignement, chacun reste dans son côté. Eux à Nantes, vous en région Rhône-Alpes au sens large, ou est-ce que vous allez les rapatrier dans la Loire?
Je déteste cloisonner mes équipes, donc je décloisonne au maximum. Je souhaite qu'ils communiquent beaucoup, à tel point que juste après la reprise, j'ai présenté à la petite logistique nantaise la possibilité de déménager pour avoir un bel outil au sein de l'usine sur Saint-Galmier. Et ils m'ont dit, banco Pierre, on te suit. Donc après, on a fait les plans, on a fait l'agrandissement de 1000 mètres carrés. Et voilà,
donc tout le monde dans la Loire.
Tout le monde a déménagé de Nantes jusqu'à Saint-Galmier.
Quelques chiffres clés sur le chiffre d'affaires donc des deux entités et vos perspectives, et sur le nombre d'emplois à date et les perspectives également d'embauche.
Donc la branche e-commerce représente 15 personnes aujourd'hui. On fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a pour objectif de faire 15 millions d'ici 2030. On a une croissance à 2 chiffres et on a envie on ambitionne de devenir les incontournables du Made in France.
Il nous reste quelques secondes, Pierre Joubert, sur votre volonté de faire des boutiques. Donc il y a celle de Nantes qui va être rapatriée. Ça va être plutôt du côté de Lyon, si je comprends bien.
Tout à fait.
Une à Paris aussi bientôt?
Lyon, d'ici fin 2024, on est en train de rechercher un point de vente, et puis idéalement sur Paris courant 2025.
Et en quelques mots donc sur comment se porte le Made in France, parce qu'évidemment nous on en parle beaucoup dans cette émission, mais on a aussi des invités qui nous font part des difficultés de pouvoir d'achat, des difficultés aussi de dire acheter français parce qu'ils ont d'autres priorités en fin de mois. Est-ce que vous les subissez vous-même dans un coq dans le Transat et dans Comptoir des Industries?
C'est vrai que le raccourci, souvent, c'est le Made in France, c'est cher, et je suis pas d'accord avec ça. Le Made in France a un coût, mais le Made in France est compétitif. Aujourd'hui, si vous achetez une casserole, une table, un matelas, on est hyper compétitif, et encore plus compétitif depuis qu'on a l'explosion des coûts du transport. J'aime bien ressortir une phrase de la CCI, un slogan de la CCI des années 90 qui est « Nos emplettes sont nos emplois ».
Je la cite souvent, cette phrase.
Et j'avoue que ça veut tout dire, parce que quand on achète un produit manufacturé en France, et ben, quelque part on contribue à soutenir les emplois, et ça peut être les emplois du cousin, de la cousine, de l'ami, de la tante, de l'oncle.
Et ça passe par une TVA réduite pour les produits fabriqués en France, c'est ce que vous portez?
Ça serait... J'aimerais bien que pour un produit manufacturé en France, on ait une TVA réduite par rapport à un produit importé de l'autre bout du monde.
Avis à tous ceux qui sont en train de concocter les programmes législatifs. Christophe Israël, bonjour.
Bonjour.
On va terminer cette émission, comme on aime le faire régulièrement, par une mise en avant d'une marque du patrimoine et du savoir-faire français. Cette marque, c'est Stockmann et ses célèbres bustes de couture, marque créée à Paris en 1867. Comment se porte donc cette marque qui a plus de 150 ans d'existence ?
Écoutez, elle va très bien. Depuis que je m'en occupe, la société a arrêté de se développer.
Depuis une trentaine d'années, c'est ça ? Vous avez repris la marque il y a une trentaine d'années.
Ouais. On a à peu près toujours les mêmes clients.
C'est-à-dire lesquels ?
C'est la haute couture, surtout les grandes maisons de couture qui se servent de nos produits comme d'outils de création. Ça sert pour les créateurs pour modeler leur création sur nos produits. Mmh. Et ils apprécient toujours autant ces produits-là. Et
malgré le temps qui passe, on se dit qu'il y a peut-être des technologies nouvelles, il y a peut-être des façons de faire dans le numérique. Non, on a encore besoin de ces fameux bustes. On en voit quelques-uns et on va parler de leur mode de production. Mais même en 2024, on peut avoir besoin, et c'est très bien d'ailleurs, de ces bustes tels qu'ils se faisaient il y a 150 ans.
Mmh. Oui, l'industrie s'est développée énormément grâce au numérique, avec des machines de découpe, etc. Mais quand il s'agit de créer un modèle, les créateurs préfèrent les travailler physiquement sur la matière et faire les essayages.
Absolument.
Et d'autant plus dans la haute couture où c'est des pièces uniques, où il faut vraiment faire des essais tous les jours, modifier.
Ça reste, le numérique ne remplacera pas tout,
non.
Ni l'intelligence artificielle.
Jusqu'à aujourd'hui.
Les ateliers de production, donc, ils ont connu à travers l'histoire plusieurs sites. Je crois qu'ils étaient très longtemps à Saint-Ouen.
Oui.
Mais ils sont depuis maintenant assez longtemps, je crois, depuis le début des années 80 à Gennevilliers.
Oui.
Combien de personnes travaillent sur le site ?
Une trentaine.
Sur le site de production, plus votre showroom qui, je le précise, est en plein cœur de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré.
Exact.
Les deux sites, c'est une trentaine de collaborateurs.
C'est ça.
Ce sont des collaborateurs qui sont fidèles à la maison, qui sont là depuis longtemps. Et ma question derrière, les questions d'embauche, de recrutement et de formation à ces métiers très spécifiques.
Ouais. Oui, en fait, on a beaucoup de gens qui ont fait toute leur carrière chez nous, chez Stockmann, que ce soit aussi bien au niveau de la production que du commercial, que de l'administratif. Étonnamment, les gens restent chez nous, c'est qu'ils doivent aimer la maison. Et chaque fois qu'on sait que quelqu'un doit partir, on prend le temps nécessaire pour embaucher un jeune collaborateur, qu'il prenne le temps de se former dans l'esprit de la maison et pour continuer à servir avec la même qualité.
On avait donc les méthodes traditionnelles. Moi, j'avais lu, vous m'avez confirmé juste avant l'émission, il faut du papier mâché qui est moulé, qui est poncé, qui est ouaté, puis ensuite recouvert de lin ou de coton. Vous parlez des évolutions technologiques. Est-ce que vous-même, dans vos modes de production, je crois qu'il y a notamment la 3D qui a fait son apparition il y a quelques années dans vos ateliers.
Alors, la 3D ne nous sert qu'à développer de nouveaux modèles et surtout symétriser les formes. Parce que c'est très difficile de faire des produits symétriques. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on utilisait des sculpteurs, c'était un travail assez manuel. Et on avait beaucoup de mal à symétriser. Alors qu'avec la 3D, on arrive à symétriser. Donc on a même, en gardant les mêmes formes, on en a scanné beaucoup, qu'on a réimprimé. En les symétrisant, parce que il y avait toujours une petite différence, et quelquefois les clients nous le faisaient remarquer. Donc aujourd'hui, la plupart de nos modèles sont symétrisés. Et par ailleurs, ça nous permet d'intervenir très rapidement sur une modification de forme, la rallonger, élargir la poitrine.
Les formes ont changé en 150 ans.
Voilà. Oui, les gens ont grandi, donc on a fait des collections qui sont plus grandes, mais vu que les êtres humains sont tous différents, on vend encore des produits qui sont très anciens, à part les produits du du 19e avec les corsets.
Les corsets, voilà, maintenant
c'est totalement obsolète. Et mais on a beaucoup de modèles qui sont très anciens mais qui continuent à se vendre
et à être utilisés. Oui. Vous êtes une entreprise, je le disais, dans l'éthique du patrimoine vivant depuis 2012. Cette labellisation, elle est importante. Elle est importante pour la commercialisation. Mais est-ce qu'elle ne vous contraint pas trop, comme tous les labels? C'est le tranchant souvent, c'est dire ça nous contraint à respecter beaucoup, beaucoup de choses.
Bah, en fait, ce label correspondait à ce qu'on faisait. Enfin, je ne veux pas dire que c'est nous qui l'avons créé, loin de là, mais non, ça nous...
C'est
ça
en
nous a
phase
jamais
avec
contraint.
Voilà.
Ça nous a jamais contraint.
On parlait d'exportation forte avec l'entreprise Fermob de Baptiste Rébier. Vous êtes aussi, vous, très présent à l'export. Si je ne me trompe pas, chiffre d'affaires, le dernier que j'ai en ma possession, 7 millions, dont 60% à l'export. Oui. Vous êtes très prisé et vous avez même une filiale aux États-Unis d'ailleurs.
Oui. Oui.
Et c'est important, cette stratégie de se dire, on a du savoir-faire français et il se vend toujours très bien à l'international.
Oui, tout à fait. Pour nous, je dirais que si nous n'étions pas allés aux États-Unis, on aurait peu de ventes. Enfin, on ferait beaucoup moins de ventes que ce qu'on fait aujourd'hui, dans la mesure où aux États-Unis, on vend plus de produits dédiés à la présentation de vitrines, présentation de magasins, présentation de vitrines. Mmh. Parce que les morphologies qu'utilisent les créateurs aux États-Unis sont différentes des morphologies européennes. Donc, on a des concurrents, d'ailleurs, on en a racheté certains, qui ont des morphologies différentes. Et compte tenu que les créateurs ont appris à travailler dans leurs écoles avec ces morphologies-là, c'est un petit peu comme un software, les gens n'aiment pas changer. Quand ils ont appris à travailler sur un type de...
Ils ne changent pas.
Voilà. Donc, nous, on est très présent en Europe et voire Moyen-Orient, et surtout dans les régions où il y a des, enfin dans les régions ou dans les entreprises où les créateurs ont fait leurs études en France, parce qu'ils ont appris à travailler sur nos produits et au cours de toute leur vie, ils vont vouloir rester avec ce même modèle.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation donc, de l'entreprise Stockmann. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été les invités de La France à tout pour réussir. Émission que, vous le savez, vous retrouvez bien sûr en télévision, en radio, mais aussi sur le site et sur l'appli de BFM Business. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle journée et à très bientôt, à la semaine prochaine, bien sûr, sur BFM Business.
BFM Business, La France à tout pour réussir.